de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Cinérama. Cinérama.
Qu'est-ce que
Cinérama.
C'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma. Aujourd'hui, on ne va pas jouer, on ne va pas écouter non plus ni d'acteurs ni de réalisateurs. Nous allons parler essentiellement de films qui sont dans les salles depuis le 30 avril. Alors pour toi, Guillaume, ce sont deux films et un film de plateforme.
Oui, ça va être Ravage, le nouveau film de Gareth Evans, et puis Tu ne mentiras point avec Cillian Murphy.
Et puis on demande aux auditeurs de s'habituer à ton petit rhume. Et puis toi, Manu, un film.
Drop Game de Christopher London.
Et toi, Sophie, un film.
Un film roumain de Bogdan Mureșanu. Il s'agit de Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé.
Quant à moi, je vous parlerai du dernier film de David Cronenberg et puis aussi d'une petite friandise sur Netflix, si on a le temps. Mais nous allons commencer avec Mexico 86. Peut-on concilier lutte politique au risque de sa vie et vie de famille?
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Qui connaît l'histoire du Guatemala? Moi, à part que j'ai toujours su que la capitale de ce pays était Guatemala City, ce qui rendait immédiatement le pays sympathique, je ne savais rien donc de ce pays d'un peu plus de 18 millions d'habitants. Mais sitôt les premières minutes de Mexico 86, nouveau film de César Diaz, on en saisit vite la violence. J'ai presque envie de dire, comme de nombreux autres pays d'Amérique centrale, il a vécu une guerre civile, là, entre 1960 et 1996, qui opposait la junte militaire au pouvoir aux groupes rebelles de gauche, dont certains marxistes. C'est à cela qu'appartient Maria, militante révolutionnaire, incarnée par Bérénice Bejo, que l'on voit témoin du meurtre du père de son bébé. L'heure est grave, elle doit quitter le pays pour le Mexique voisin, avec un certain Miguel, mais elle laissera son fils à sa mère plutôt que de l'envoyer dans une ruche à Cuba, comme le voudrait son mouvement. Si on voit la vie que mène Maria, qui se fond dans la population mexicaine, non sans se cacher sous divers perruques, elle va devoir changer de vie, mesurer son engagement. Sa mère ne pouvant plus garder son fils, qui a maintenant 10 ans, elle décide donc de le garder avec elle à Mexico. Mais la question se pose alors de la viabilité d'un tel projet. Car s'il y a cette description d'une maternité de circonstances, il y a également une tension qui progresse à mesure que nous avançons dans le récit. Un de leurs camarades s'est fait tuer en pleine rue. Les services secrets guatémaltèques sont à ses trousses. Ils doivent se méfier, donc, voire changer de planque. Et dans le même temps, eh bien, son fils, habitué à une vie paisible, doit vivre dans un appartement laid, renoncer à aller à un anniversaire et à toute autre fantaisie. Il n'y a rien à faire, le film l'expose assez clairement, l'enfant n'a que faire de la lutte politique. Quant à sa mère, qui travaille dans un journal et doit livrer des documents à une journaliste pour déstabiliser le gouvernement de son pays, eh bien, elle reste tiraillée entre accomplir sa mission et devenir mère d'un enfant qu'elle n'a pas vraiment vu grandir. Alors c'est plutôt sur ce dernier point que le film s'apesantit. La mise en scène est vraiment, j'ai presque envie de dire, coupée. Il y a la vie clandestine et sa dangerosité qui s'accompagne eh bien, de caméras à épaule, de montage rapide et d'une musique prenante. Mais la majeure partie du temps, eh bien, ce sont des plans fixes dans un appartement mal éclairé. Alors il aurait été sûrement bon d'aller encore davantage dans la fiction et nourrir le thriller paranoïaque. Mais pour César Diaz, qui lui aussi a vécu cet exil, rejoignant sa mère à 9 ans au Mexique, eh bien, il s'agit autant de parler de l'histoire de son pays que de la possibilité de la lutte avec des hommes et des femmes prêtes à sacrifier leur vie ou au minimum leur famille pour leurs idéaux. Mexico 86 est un film en salle depuis le 23 avril. Des destins confrontés à un régime totalitaire déliquescent, c'est le prix Horizonti du meilleur film à la Mostra de Venise. Nous parlons de ce nouvel an qui n'est jamais arrivé.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
À la veille de la chute du régime de Nicolae Ceaușescu en décembre 1989, la Roumanie retient son souffle. Dans un Bucarest rongé par la peur, la méfiance et la répression, six trajectoires individuelles se déploient sans se rejoindre tout à fait. Elles tracent pourtant ensemble une fresque vertigineuse et profondément humaine d'un pays à la lisière de l'explosion. C'est dans ce climat de tension extrême que le cinéaste Bogdan Mureșanu plante ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. Un premier long métrage ambitieux, un film choral, tendu à la frontière du tragique et du grotesque, déjà auréolé, comme tu le disais Vincent, du prix Horizontil du meilleur film à la Mostra de Venise. Il entremêle six destins ordinaires qui se débattent, pris au piège d'une journée pas comme les autres, celle où tout allait basculer.
Dacă vorbește asta pe la Europa Liberă.
Ce dau în acea lire? Acum te-ai găsit să fugi.
Dacă găsim o actiță care să se mire.
À l'ouest du pays, la répression sanglante contre les opposants du régime socialiste autoritaire gronde. À Bucarest, la vie semble figée dans la peur et la résignation. Une vieille dame refuse obstinément de quitter sa maison, condamnée par les pelleteuses du conducator, hein, le mégalomane Ceaușescu, qui détruit méthodiquement le patrimoine historique de la capitale pour y imposer sa vision de ville-musée totalitaire en béton. Bah, le fils de cette dame tente de convaincre maman de quitter les lieux, tiraillé entre devoir filial et fidélité au régime. Un régime qu'il sert activement en espionnant les étudiants à l'université où il travaille. Parmi ces jeunes surveillés, hein, suspectés de fomenter contre le régime ou de vouloir s'échapper, un étudiant à la dense chevelure et au profil aquilin planifie justement sa fuite vers l'ouest. Il porte aussi l'ombre d'une autre allégeance, hein, puisque son père est réalisateur pour la télévision nationale. Lui-même sous pression, pris à la gorge car à la télé la panique est palpable. Bah, l'actrice vedette d'un clip de propagande a réussi, elle, hein, à fuir le pays. Impossible donc de diffuser les vœux du nouvel an avec une traîtresse, hein, qui a un incarne le chant patriotique à l'image. Il faut réenregistrer dans l'urgence, hein, bricoler, sauver la façade. Et c'est au Théâtre National qu'il réquisitionne donc Florina, une comédienne ressemblant suffisamment à la déserteuse. Tétanisée mais révoltée, Florina tente d'échapper à ce rôle empoisonné sans pouvoir vraiment dire non. Et pendant ce temps-là, alors la sixième personne, loin des studios et des salons, hein, Genou, ouvrier discret et résigné, eh ben découvre que son petit garçon a envoyé au Père Noël une lettre fatale. Il y demande, dans son innocence, hein, comme cadeau pour son papa, eh ben la mort du vieux Nico. Une scène absurde, hein, tendue à l'extrême, que Bogdan Mureșanu avait déjà esquissée dans Christmas Gift, hein, qui était son premier court-métrage, et qui devient donc ici l'un des moments les plus remarquables du film. Tous ces personnages, hein, englués dans leur quotidien, tendent, sans le savoir, vers un même point de rupture, une journée fatale où la grande histoire va bientôt les emporter. Le film met un peu de temps à démarrer, hein, le temps d'installer chacune de ses trajectoires. Mais c'est justement dans ce refus du schéma narratif classique, linéaire, que réside sa force. Il assume pleinement une structure chorale éclatée où chaque personnage semble secondaire dans l'histoire d'un autre et où en filigrane, Ceaușescu lui-même, invisible mais omniprésent, devient le véritable protagoniste d'un récit collectif dont personne ne veut. Sur une seule journée, les trajectoires individuelles se frôlent, se répondent, sans se rejoindre tout à fait, tissant un réseau de tensions croisées, hein, évoquant Pulp Fiction chez Tarantino, ou plus encore Elephant de Gus Van Sant, où on retrouve bah, cette même menace sourde qui enfle au fil du temps. Visuellement, les taux du 4 tiers enferment les personnages avant que le cadre ne s'élargisse au 16/9, ouvrant symboliquement, hein, l'horizon de leur destin, procédé vu aussi, hein, dans un tout autre contexte émotionnel, dans Mommy de Xavier Dolan, par exemple.
Et on écoute un extrait de la bande originale du film.
Enfin, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé saisit l'absurde au cœur même du tragique. Hein, dans cette Roumanie en décomposition, l'anodin peut devenir mortel, le grotesque assurément politique. Bogdan Mureșanu redonne chair aux petites gens de 1989, ceux que l'histoire oublie mais qui ont fait tomber le fils le plus aimé du peuple.
Ce film, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, récompensé, est en salle depuis le 30 avril. C'est aussi le cas de Tu ne mentiras point, où on retrouve Cillian Murphy qui a quitté l'habit d'Oppenheimer pour un film dans lequel il assiste à des actes scandaleux au couvent de la ville.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Non, Tu ne mentiras point n'est pas la suite de Tu ne tueras point de Mel Gibson et n'est pas non plus un film de guerre. Alors c'est presque dommage car on sait qu'on n'aura probablement pas un Tu ne voleras point. Hein. Mais bon, avec les traductions douteuses en titre français, on ne sait point ce qui nous attend. Alors en version originale, Tu ne mentiras point met moins l'accent sur l'aspect religieux car il s'intitule Small Things Like This, soit des petites choses comme celle-là. Il est tiré du roman Ce genre de petites choses de Claire Keegan, décidément autrice qui connaît un bel intérêt de la part des producteurs puisque j'avais chroniqué ici une adaptation assez soporifique de son livre Foster qui était devenu ce Quiet Girl pour le grand écran. Alors mon ressenti était très mitigé mais le long métrage avait été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, une première pour une production irlandaise. Un terrain sur lequel Tu ne mentiras point entre le sérieux de son intrigue, le caractère impressionnant de l'interprétation de ses comédiens et la beauté de sa photographie voudrait à coup sûr s'insérer.
Come on, finish up your toast before it gets cold.
Make me go. 1985. Nous sommes à New Ross, dans le comté de Wexford, en Irlande. Alors Bill Furlong, qui travaille dans le charbon, doit lutter pour survivre et continuer à rendre pérenne son entreprise. Un jour, lors d'une livraison au couvent de la ville, il va assister à une scène qu'il n'aurait pas dû voir et qui va le hanter. Il va bien évidemment chercher à en savoir plus et va se rendre compte que cette situation à laquelle il a assisté n'est pas isolée. Ce secret, longuement dissimulé et transformé en institution honteuse, va le confronter au silence complice d'une communauté vivant dans la peur. Et pour une bonne raison, les événements ont beau avoir eu lieu il y a 40 ans, ils ont commencé depuis bien, bien plus longtemps et continuent encore à ce jour de rendre honteux la nation irlandaise qui a dû faire un gros travail de reconnaissance. Alors ces événements se sont déroulés dans les couvents de la Madeleine, aussi appelés Magdalen Laundries. Alors c'était des institutions religieuses destinées à rééduquer les jeunes filles et femmes considérées comme étant déviantes par la société. Alors ça comprenait les mères-filles, les jeunes filles ayant un bébé hors mariage est considérée comme honteuse aux yeux de la communauté très 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 religieuse ou tout simplement de jeunes filles refusant un certain ordre très contraignant pour elles qui vont être brisées par un emprisonnement qui ne dit pas son nom. Alors, comme on peut s'en douter, il s'agissait souvent de personnes issues de milieux populaires, voire défavorisées, ou tout simplement des orphelines. Alors, pendant plus de deux siècles, ces établissements gérés par des ordres religieux catholiques ont imposé à des milliers de victimes des conditions de vie assez inhumaines et leur ont fait subir de nombreux abus. Alors, la vérité a été révélée progressivement, de sorte à ce qu'assez récemment, comme je disais, le gouvernement irlandais a officiellement reconnu sa responsabilité et a présenté des excuses publiques aux victimes. Alors si l'implication est globalement réussie et sert le sujet très grave du film malgré un rythme en dents de scie, il n'efface cependant pas un autre film fait sur ce même sujet, The Magdalene Sisters de Peter Mullan, drame remarquable qui date de 2002 mais qui lui se passait dans les années 60 et qui avait gagné le Lion d'Or à Venise. Alors il était forcément difficile de faire plus fort que sa scène d'introduction qui a su encapsuler toute l'horreur de la situation avec une maestria pétrifiante. Alors cette scène d'introduction je la trouve absolument dingue. Tu peux peut-être en parler aussi, Manu, parce que tu as vu le film. Parce qu'en fait, on parle d'une scène de mariage. Un cousin va attirer une de ses cousines à l'étage, va la violer. On ne voit pas l'acte, mais ce qu'on va voir, c'est la jeune fille qui descend et tout en suivant la noce qui rassemble beaucoup de convives, on comprend à travers les jeux de regard et les actions des parents et des femmes aussi que la victime devient coupable aux yeux de la communauté et qu'elle va finir donc rejetée derrière ses murs. Même si le film qu'on chronique là, Tu ne mentiras point, est très très bien, c'est très difficile de faire plus fort sur le sujet que cette scène d'introduction vraiment glaçante qui ne montre rien.
Tu ne mentiras point est visible depuis le 30 avril dans les cinémas cinéma. Une femme est harcelée puis terrorisée par une série de messages anonymes sur son téléphone. Nous parlons maintenant de Drop Game.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
C'est avec un certain intérêt, hein, voire même une légère excitation, que l'on attend chaque nouveau long métrage de Christopher Landon, hein, alors le fils de l'homme qui coupait du bois dans la maison de la prairie, hein, soit Charles Ingalls, donc c'est le fils donc de Michael, un des héros de mon enfance. Les réussites des slashers Meta, Happy Birthday, 1 et 2, et puis Freaky, hein, habile cocktail de comédie, de teen movie et d'horreur, ont imposé le cinéaste comme un des artisans les plus doués de sa génération. Alors après le sympathique mais oubliable We Have a Ghost, qui est d'ailleurs visible sur Netflix, hein, Landon s'empare du thriller hitchcockien à concept avec Drop Game, reprenant à son compte une situation classique de chantage dans un cadre insolite et contemporain, celui des sites de rencontre. Alors le film commence plutôt bien. Violette est une jeune veuve qui vit désormais seule avec son fils pour son premier rendez-vous depuis des années. Via une application, elle se rend dans un restaurant huppé où elle doit retrouver Henri, un beau gosse, charmant et d'emblée présenté comme un type bien. Mais leur alchimie naissante est rapidement gâchée quand Violette reçoit des messages anonymes sur son téléphone. Contrainte au silence, elle doit suivre les instructions à la lettre de son harceleur. Sinon, je vous en dirai pas plus.
Bonsoir.
Bonsoir.
Waouh, tu es magnifique.
Oh, c'est gentil, merci.
Pardon pour le retard, j'avais un truc.
Non, pas grave. Enfin, pas grave. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Pardon, j'ai attaqué un verre pour me sentir moins nerveuse et en clair, ça aide pas.
Ouais, j'en ai bu deux aussi au volant. Ça va pas aider non plus. On va s'asseoir à notre table.
Oui, allons-y.
Cool. Oui, ça a l'air d'être... c'est pas une comédie, hein, je rassure tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que c'est peut-être là où le film pêche un petit peu. Hein. Alors, toute l'entrée en matière déploie un dispositif jouissif à défaut d'être foncièrement original. Hein. La mise en scène, élégante et précise, invite le spectateur à partager le calvaire de son héroïne, pris en otage dans une machination diabolique, dont elle n'est qu'un pion à l'intérieur, hein, d'un échiquier aux ramifications complexes. Le restaurant truffé de caméras dans tous les recoins devient un terrain de jeu ludique au suspense avamment distillé. Alors, hélas, le plaisir se délite progressivement par excès de gourmandise. Les invraisemblances sont légion, hein, dans ce type de production. Hein, ils font même partie, je dirais, d'un pacte avec le spectateur. Mais là, elles s'enchaînent en boucle et sont toutes plus énormes les unes que les autres, alors que le ton du film reste globalement très premier degré. Drop Game met à rude épreuve notre capacité à accepter les situations les plus rocambolesques. Alors, il y a parfois des limites à s'imposer dans la fantaisie, surtout lorsqu'on joue sur les nerfs du public. Alors Hitchcock, hein, qui est quand même le modèle du film, n'a jamais réalisé de film réaliste, hein, ayant toujours assumé le côté fantasque de ses récits, qui obéissent néanmoins à une cohérence interne, à une logique liée à la création d'un univers propre. Ce qui n'est pas le cas du film de Landon, qui finit par s'engouffrer dans le grotesque le plus total, alors flirtant même avec la parodie involontaire. Alors de plus, l'identité de l'assassin soumise à une écriture grossière ne surprendra que les plus naïfs en matière de Wood Knight.
Je crois que je vais annuler. Ça fait des mois qu'il attend gentiment de te rencontrer. C'est qu'un dîner. Bisous. Merci.
Bonne soirée.
Salut maman.
Je reviens pas qu'on soit là.
En même temps, t'es le seul qui m'a pas demandé des photos de mes pieds.
Jamais le premier soir.
Qu'est-il arrivé au très doué Christopher Landon ? Alors pourquoi ce semi-échec ? Hein ? Les mauvaises langues diront qu'il s'agit juste d'une production Blumhouse, hein, donc un ratage à peu près assuré. Alors en y regardant de plus près, le problème du film tient à son scénario commis par le tandem Gillian Jacobs et Chris Roach, à qui l'on doit les poussifs Action Vérité et Nightmare Island, hein, deux exemples parmi tant d'autres qui prouvent que de bonnes idées au départ ne font pas nécessairement de bons films. Alors pour ne pas gâcher les quelques surprises, hein, il est impossible de dévoiler tous les problèmes de vraisemblance, mais sachez que sur le dernier quart d'heure, c'est un festival de n'importe quoi qui se déroule sous nos yeux, qui finissent par saigner. Hein. C'est dommage car Landon est talentueux, hein, c'est même un excellent scénariste quand il veut. Tout récemment, il l'a démontré avec le très amusant slasher romantique Hurt Eyes, qu'il n'a d'ailleurs pas réalisé. Alors finissons par une note positive, hein. Malgré tous ses défauts, Drop Game se laisse regarder. On va dire que c'est un divertissement calibré mais jamais prétentieux, très bien défendu par son actrice principale, que je ne connaissais pas, Megan Fahey, j'ai vu qu'elle jouait essentiellement dans des séries. À noter aussi une remarquable utilisation de son décor chic, un restaurant situé dans les hauteurs en plein centre-ville, ce qui est déjà pas mal. Voilà.
Drop Game est en salle depuis le 23 avril. L'étrangeté du deuil explorée par David Cronenberg. Nous parlons des linceuls.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Qu'il est lointain le souvenir de Shrouds ou Les Linceuls, le dernier film de David Cronenberg qui a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2024 où il n'a rien remporté. Alors il faut bien le dire, il s'agissait d'un film à part. Certes, Cronenberg fait partie des cinéastes admirés à Cannes, hein, même si son passage à la présidence du jury n'a pas laissé que de bons souvenirs. Mais de l'aveu du réalisateur canadien, le public cannois est trop typique des journalistes, des distributeurs, des acteurs, des producteurs. On est loin de la diversité, ce qui pose selon lui un petit problème. Il a admis qu'il avait trouvé la projection de son film plutôt studieuse, alors qu'à Toronto, dans son Canada natal, eh bien les spectateurs avaient pouffé. Alors oui, effectivement, dans la salle cannoise, à part quelques moments de sourire, il n'y a eu aucun éclat, preuve sans doute que je n'ai pas vu le film que le réalisateur canadien voulait proposer. Nous écouter un extrait de la bande originale qui est composée, comme souvent, par Howard Shore. Le sujet donc n'est pas des plus drôles, hein, puisqu'il s'agit du deuil. Le titre Les Linceuls fait référence à un homme d'affaires. Celui-ci est interprété par Vincent Cassel, qui prend l'apparence d'un David Cronenberg plus jeune que lui à l'évidence. Alors, ne supportant pas la mort de sa femme, emportée par une maladie, il gère son deuil avec la haute technologie. Il a mis au point un système inédit qui permet de rester en connexion avec la défunte, même dans sa tombe. Le système nommé GraphTech permet, au moyen de capteurs et de caméras, de rendre compte de l'état de décomposition du corps. Il prend la forme d'un linceul ultra connecté qui permet de recevoir les images sur son appli ou directement sur la tombe. C'est ainsi que Karch, comme il se prénomme, peut suivre tranquillement donc le corps de sa femme se putréfier. Ne s'attribuant pas à ce seul désir macabre, il a eu l'idée de breveter son cimetière connecté et s'apprête à signer un gros marché. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il y a deux os. Hein. D'une part, il remarque des nodules inquiétants sur les os de sa femme, laissant penser qu'elle a été mal soignée. Et donc ça, pour faire le deuil, c'est pas si facile. Et d'autre part, son cimetière connecté a été profané, même piraté. Et oui, tout ce qui se connecte se pirate. Et cette opération pourrait servir à l'espionner. Alors, mais pourquoi ? Alors bon, ben, en tirant les fils de cette agression, Cronenberg nous livre un grand nombre de pistes qui finissent par nous perdre un peu, laissant penser que le sujet eh bien, n'est pas là dans un thriller conspirationniste. Cependant, les pas que nous faisons dans cette intrigue renvoient à la personnalité plutôt trouble de sa femme, de quoi perturber le deuil. Avec la musique de Howard Shore, on est un peu dans l'ambiance un peu clinique parfois du film. Le film débute de manière innocente. Alors c'est vrai que la séquence est plutôt drôle. Hein. Le personnage est chez son dentiste qui lui dit « Le deuil vous pourrit les dents ». Alors ce deuil, Cronenberg l'a vécu avec la mort de la femme qui a partagé la plus longue partie de sa vie. Et c'est après cette mort qu'il a écrit ce film qui devait être au départ une série produite par Netflix avant que la plateforme ne se ravise et que le cinéaste canadien fasse des deux premiers segments de la série un long métrage qui transporte des thématiques qui lui sont cher. Alors il y a d'abord le corps, évidemment. Il dit le corps de sa femme était le monde, le sens, le but du monde. Voilà, mais ce qui est peut-être plus important, c'est son absence, puis sa variation et son imperfection. Il y a aussi la gémellité, par exemple, hein, qui refait surface après faux-semblant, puisque sa femme avait une jumelle, une vétérinaire conspirationniste. Et ce n'est pas tout, puisque son assistant virtuel prend aussi la forme de sa femme. Parmi les autres thématiques propres à Cronenberg, il y a aussi l'œuvre qui échappe à son créateur, hein, c'est l'eau de tous ses premiers films. L'exemple le plus connu est La Mouche. À bien y regarder, ce film ressemble beaucoup, alors peut-être à ces derniers, il y a comme une forme d'épure. Chez Cronenberg, il y a toujours une forme de distanciation avec le sujet, qui donne parfois ce petit rire. Hein. Il y a aussi une propension au concept qu'il convient de dépouiller au moyen du cinéma en glissant sur la fiction. Mais ce qui apparaît nouveau avec Les Linceuls, ce sont les longs bavardages, me semble-t-il. Mais malgré ce désir d'ultra connecter la mort, notre personnage principal passe par les autres pour dénouer le deuil dont il parle. Alors il serait faux de dire que j'ai retenu grand-chose de ce Cronenberg, je dois bien l'avouer. Je peux même dire que je suis passé à côté parce que je l'ai vu durant le Festival de Cannes où un film en écrase vite un autre. Mais il reste que, comme tout film de Cronenberg, de choses est une construction habile. Kill. Alors sans doute le rare film autofictionnel de Cronenberg, si l'on admet qu'il n'a jamais fait l'amour dans des voitures cabossées, eu un passé de mafieux, tenté de se dupliquer ou circuler dans une limousine en plein New York. Voilà, bon, je prends quelques exemples de sa filmographie. Toi Sophia, tu l'as vu aussi, peut-être que tu as quelques mots à dire sur le film.
Non, je te rejoins parfaitement sur le sentiment d'être un petit peu passé à côté et effectivement beaucoup de strates de complexité qui sont pas forcément nécessaires, pas forcément justifiées et qui servent peut-être seulement à perdre le spectateur et la spectatrice. Donc voilà, je te rejoins là-dessus.
Les Linceuls est en salle depuis le 30 avril. Tom Hardy doit se retrousser les manches pour se sortir d'un mauvais pas. Nous parlons de Ravage.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama.
En 2011, le Gallois Gareth Evans se faisait remarquer en signant le genre de révélation que recherchent tous les jeunes réalisateurs, à savoir le carton de festival qui va vous propulser du jour au lendemain sur la scène des auteurs qui comptent. Alors The Red, tourné en Indonésie, avait impressionné et était devenu un gros succès grâce aux bouche à oreille. Alors quelques années après, son dernier film est annoncé pour 2021. Après moult reports, le voici enfin disponible sur Netflix, Avoc en version originale et Ravage chez nous. Alors en titre un peu passe-partout, et générique, malheureusement à l'image du spectacle proposé. Car si on peut comprendre ce qui a enthousiasmé les amateurs du style brut d'Evans, à savoir l'action maximale, cela ne peut pas occulter ses défauts qui se trouvent dans cet écrin totalement hollywoodien cette fois, ce qui est probablement leur pire itération.
J'étais sur une scène de crime. 9 victimes. Je passe un appel. Et je peux vous assurer que pour vous et vos amis, c'est... la prison à vie.
Alors on ne va pas vous faire spécialement le résumé de Ravage car c'est une série de clichés du polar made in USA, du film noir à son dérivé le plus extrême nommé le hard boil, à savoir littéralement le film de dur à cuire. Alors une sombre histoire de trafic qui tourne mal, convoque pêle-mêle des flics ripoux, des enfants d'hommes politiques, mais aussi des yakuza, le tout saupoudré de trahison, d'anti-héros qui cherchent dans la violence une rédemption, mais aussi un mauvais papa qui s'en veut, une coéquipière et une nouvelle recrue intègre, des fusillades dans des clubs, un final sur des rails dans le train. Alors n'en jetez plus, tout y est, mais malheureusement, pas pour un best-of enthousiasmant. On est plus ici dans un kouglof dégoulinant qu'une réinvention intelligente du genre. Alors on note bien évidemment les bonnes intentions, ou surtout bonnes références, dont une en particulier, celle du cinéma asiatique, et plus précisément du cinéma hongkongais de John Woo, Tsui Hark, Ringo Lam ou Johnny To. Rappelons que le titre d'origine de À toute épreuve de John Woo, soit le film terminal de ce genre, s'appelle justement Hard Boiled. Toutes les pores de Ravage transpirent cet amour des douilles fumantes dans un univers de haute corruption où tout se dénoue à coups de fusil à pompe dans la gueule. Mais Evans, il faut bien le dire, n'a ni la science opératique des cadrages de John Woo et encore moins le flair du montage de son fidèle monteur David Woo. Alors c'est constamment brouillon, filmé trop près des corps, tout en caméra portée qui brouille les focus et c'est en plus étalonné à la truelle pour cacher les artefacts numériques qui polluent littéralement tout le film.
Et n'oubliez pas, je sais ce que vous avez fait. Vous avez aucune idée de ce que j'ai fait.
Car c'est bien ça, l'autre immense problème du film, sa laideur visuelle. Le film utilise les décors numériques de manière tellement envahissante qu'on n'a plus d'accroche tangible à une forme de réalité. Et ce choix du virtuel s'étend même aux scènes de course-poursuite en voiture. Alors à ce titre, celle d'ouverture donne le ton dans le mauvais goût qui ne quittera jamais le métrage. C'est bien dommage car le jeu des acteurs est à l'avenant de ce vide visuel. Alors Tom Hardy n'a rien à proposer, Timothy Olyphant retrouve son statisme facial du pas bon Die Hard 4, et ce même si le début du climax dans une cabane va commencer un peu à faire illusion. Mais c'est pour mieux retomber dans un mauvais remake de l'autre influence urbaine d'Evans, à savoir le dernier acte du chef-d'œuvre Miami Vice de Michael Mann, mais sans aucune de ses qualités. C'est donc bien dommage car Evans, au talent très contestable pour votre serviteur, avait quand même su produire en 2013 un court-métrage assez prodigieux pour le second tome de l'anthologie VHS, intitulé Safe Haven, où l'infiltration d'une secte indonésienne amenait à un chaos ultra-violent débouchant sur rien de moins que la fin du monde. C'était un petit tour de force toujours indépassable par son propre réalisateur, et c'est franchement bien dommage.
Voilà, nous parlions de Ravage, nous restons sur Netflix pour parler de Bullet Train Explosion.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Alors, je sais qu'il existe quelques films avec des trains chargés de bombes qui menacent d'exploser à tout moment. En 2022, on s'était régalé, même si tout le monde n'est pas d'accord, y compris dans ce studio, avec Bullet Train et Brad Pitt en tueur fatigué. Eh bien, il y a quelques jours, Netflix a sorti Bullet Train Explosion. Pourquoi toujours des histoires de Bullet Train? Car il s'agit de trains qui vont vite. Ce nouveau film japonais est un remake d'un autre film japonais sorti en 75, Super Express 109, qui avait déjà servi à construire le culte Speed. Le scénario est assez limpide. Des bombes ont été placées dans un TGV japonais qui sort en vers Tokyo et qui ne doit jamais descendre en dessous de 100 km/h, sinon tout explose. Le film est fort bien réalisé, laissant place à l'attention. L'intérêt se porte sur l'équipe qui est en dehors du train et qui doit réfléchir à des stratégies, et puis à une poignée de personnages restés dans ce train. Chacun semble suivre une éthique et une certaine abnégation, y compris le conseiller du gouvernement qui se rend bien compte que, au final, c'est lui le moins que rien et qu'il doit lui-même changer de pensée. Même s'il faut avouer qu'on sent un peu trop venir qui est derrière ce mauvais coup et que ses motivations sont assez lunaires. Il y a beaucoup de plaisir à prendre au fil de ce compte à rebours. Bullet Train Explosion est sur Netflix.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et on parlera encore de cinéma. C'est le principe de l'émission. Toi, Sophia, tu auras vu un film avec des filles.
Oui, trois aventurières en République dominicaine. Il s'agira de Coca Chicas.
Et toi, Guillaume, deux films.
Oui, je vous parle de Ghostlight et de June and John, le dernier Luc Besson.
Et toi, tu n'en auras qu'un, Manu?
Ce sera Rumors, entre autres de Guy Madine.
À la semaine prochaine.